Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, c'est notre dernier rendez-vous de la semaine, une émission préparée par Mélanie Chalandon, Mathilde Barbier, Fanny Richer, Nicolas Ignatieff, réalisée par David Jacubovies, à la prise de son Ariane Herbet, émission que nous avons enregistrée hier. Sous les paillettes, la paille. Le climat ne sera pas seulement aux réjouissances pendant le Festival de Cannes. Les créateurs sont inquiets. Dimanche, la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, y organise un colloque sur l'avenir du droit d'auteur en Europe. Sujet hautement anxiogène au pays de l'exception culturelle, depuis que la Commission européenne a fait du marché unique du numérique une de ses priorités. Jean-Claude Juncker l'exprimait en ces termes le 16 décembre dernier. Tous les secteurs de l'économie et de la société deviennent numériques. L'Europe doit être en première ligne de cette révolution. Les entraves au numérique sont des entraves à l'emploi, à la prospérité et au progrès. Et pour le président de la Commission, il s'agit de favoriser l'émergence de groupes européens capables de rivaliser avec les leaders américains du secteur. Problème, constate Bruxelles, s'agissant des produits culturels, la jungle des droits d'auteur, une législation pour chacun des 28 pays membres, interdit de mener une politique cohérente et offensive. Pire, l'absence d'harmonisation jouerait aussi contre les consommateurs européens. Ainsi, lorsque ces derniers voyagent au sein de l'Union, ils ne peuvent pas profiter de leur abonnement à une plateforme de VOD ou de streaming musical, faute de portabilité. Alors pour surmonter ce problème, la Commission entend mener une grande réforme à l'automne en se basant sur un rapport remis en début d'année par la députée européenne Julia Reda, membre du Parti Pirate. L'idée est d'aller vers un droit d'auteur unique pour favoriser la circulation des œuvres. Mais au profit de qui ? Du créateur ou de l'utilisateur ? Le droit d'auteur est-il un frein au marché européen du numérique ? Et faut-il créer un espace Schengen pour les MP3 ? C'est notre sujet du jour. Alors quand je parle des MP3, évidemment c'est un titre un petit peu réducteur puisqu'il y a tout un tas de formats qu'on va peut-être aborder aujourd'hui en évoquant cette question du droit d'auteur que nous allons aborder avec trois invités, à commencer par vous Benoît Peters, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain, scénariste de bande dessinée, vous êtes notamment l'auteur avec François Skeuten de la série Les Cités Obscures chez Casterman. Vous avez consacré plusieurs ouvrages à Hergé, vous intéressez beaucoup à ces questions de droit d'auteur dont vous dites qu'il s'agit d'un combat permanent pour le défendre. Pour discuter avec vous ce soir, Lionel Morel, bonsoir.
Bonsoir.
Juriste, membre du Conseil d'orientation stratégique de la Quadrature du Net. On rappelle en deux mots ce qu'est cette association.
C'est une association de défense des libertés dans l'environnement numérique qui intervient sur plusieurs sujets, dont la question du droit d'auteur.
Alors, c'est une association qui est favorable à une réforme du droit d'auteur, telle qu'elle est d'ailleurs imaginée par la députée européenne Julia Reda. Je précise que vous tenez également, Lionel Morel, un blog sous le nom de Calimac. C'est Silex. On retrouvera le lien sur notre site à la page du Grain à Moudre. Et puis notre troisième invité se trouve dans les studios de la RTBF à Bruxelles. Donc il s'agit de Séverine Dussolier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure à Sciences Po. Vous y enseignez les questions de propriété intellectuelle. Vos recherches portent sur le droit d'auteur dans un environnement globalisé. Et vous avez fondé avec d'autres enseignants la European Copyright Society, qui est un cercle de réflexion sur le droit d'auteur européen. Alors je vous propose de démarrer avec peut-être le constat le plus simple et qui paraît a priori le plus aberrant, Lionel Morel, c'est-à-dire ce que j'essayais d'expliquer. Aujourd'hui, quand on est abonné par exemple à une plateforme alors de téléchargement de vidéos en France, si on va, prenons l'exemple un tout proche, par exemple en Belgique, on ne peut pas profiter de cet abonnement.
Oui, en effet, c'est dû au fait, si vous voulez, qu'il y a une directive européenne qui encadre les questions de droits d'auteur au niveau de l'Union, mais que la négociation des droits continue à se faire largement sur une base nationale, c'est-à-dire que les droits d'usage sont négociés par les fournisseurs d'offres, avec des délimitations géographiques qui font que vous êtes soumis donc aux différents droits nationaux au niveau européen. Ça peut aller beaucoup plus loin quand même. Il y a un cas qui est assez cocasse, c'est-à-dire que quand vous êtes dans les DOM-TOM, vous êtes coupé de la plupart des offres, notamment de livres numériques, parce que vous n'êtes pas considéré comme étant en Europe ni en France, vous êtes considéré comme étant en Asie ou en Afrique. Donc ça pose quand même des soucis assez épineux.
Séverine Dussollier, c'est vraiment la multiplicité des législations qui empêche le consommateur d'avoir accès à des offres qu'il a souscrites dans son pays.
Alors c'est à la fois le fait que le droit d'auteur est territorial, donc il se gère pays par pays. En effet, la législation s'applique pays par pays. Il y a quand même des rapprochements au niveau européen depuis plusieurs années. Et puis il y a plein de pratiques aussi qui font en sorte que selon le type d'œuvre, les titulaires de droits vont accorder leurs autorisations pays par pays, notamment pour les films où les titulaires de droits peuvent être différents, les dates de sortie des films peuvent être différents. Et donc il y a d'autres éléments que le droit d'auteur qui viennent freiner l'accessibilité européenne simultanée.
Alors Benoît Peters, est-ce que pour vous, cette difficulté à faire circuler certaines œuvres, parce que c'est évidemment pas le cas de toutes les œuvres, hein, quand on lit un livre, on peut voyager comme on veut, hein, ça c'est pas un problème, puis si on l'achète en format numérique, là aussi on peut y accéder sur son lecteur, mais est-ce que c'est un problème? En tout cas, est-ce que vous comprenez que ça pose un problème?
Je pense que la Commission a réussi à brouiller l'ensemble du débat en mélangeant un certain nombre de données techniques et de données qui concernent des opérateurs et qui doivent absolument évoluer et être harmonisées. La Commission ferait bien de marcher sur son propre terrain et par exemple de penser à l'harmonisation vers le bas de la TVA du livre numérique. Il n'y a pas de raison à un moment où on parle de faciliter les choses qu'on fasse peser une TVA beaucoup plus haute et qu'on l'impose à la France pour le livre numérique que pour le livre papier.
C'est en cours de réflexion d'ailleurs, paraît-il.
Oui, c'est en cours de réflexion pour 2017, etc. Enfin, bon. Voilà le genre de choses qui relèvent vraiment des compétences de la Commission. Quant à mêler la question du droit d'auteur, c'est-à-dire à la fragiliser, à donner le sentiment que les auteurs et le droit d'auteur en tant que tel seraient, eux, des entraves, alors qu'ils sont dans le monde de la culture et de la création depuis longtemps le maillon le plus faible et le plus fragilisé, je crois que c'est un jeu pervers. Et au fond, à chaque grande révolution technologique qu'il y a eu, on a dit « le droit d'auteur, maintenant, c'est trop compliqué ». Quand la télévision est apparue, le droit d'auteur, c'était déjà trop compliqué, ça relevait de l'ancien monde. En réalité, le numérique permet au contraire une approche beaucoup plus fine du droit d'auteur, parce qu'on peut aujourd'hui isoler des fragments d'œuvres, des fragments de consommation, et les attribuer à leur vrai destinataire, les créateurs. Donc je crois qu'on a introduit une confusion, on a mis le droit d'auteur, on a parlé d'une réforme du droit d'auteur, comme si le droit d'auteur était un blocage, alors que les blocages sont des législations, sont des grandes sociétés, etc. Et mettre les deux mots en même temps, je crois que c'est simplement déstabiliser le débat inutilement.
Lionel Morel.
En fait, je pense qu'il faut quand même parler du droit d'auteur dans cette question. Alors, il n'y a pas que la question, si vous voulez, du droit des consommateurs à accéder à des biens culturels qui sont en jeu dans la réforme qui est en ce moment envisagée au niveau européen. C'est beaucoup plus large. Je vais vous donner quelques exemples qui vont vous montrer à quel point le régime juridique est bigarré en Europe et pose des soucis. Quand un professeur veut passer un film dans une classe, en Angleterre, il peut le faire en entier. En France, il peut passer 6 minutes à cause des restrictions dues à ce qu'on appelle l'exception pédagogique au droit d'auteur. Si vous voulez prendre en photo un monument récent et le partager la photo sur Internet, vous pouvez le faire en Allemagne, mais vous pouvez pas le faire en France, parce que le droit d'auteur s'applique au bâtiment et vous empêche théoriquement, vous rend contrefacteur si vous faites ce partage. Je vous donne encore un exemple. Au 1er janvier, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Vous avez l'œuvre de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, etc., qui est entrée dans le domaine public, ça veut dire qu'elle devient librement réutilisable partout en Europe, sauf en France, parce qu'il y a une règle spéciale qui nous dit qu'il bénéficie de 30 ans de plus de protection des droits parce qu'il est mort pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Des exemples comme ça, si vous voulez, je peux en multiplier. Et ça, si vous voulez, c'est pas des questions techniques, c'est pas des questions d'opérateurs, c'est bien des questions de régime du droit d'auteur qui n'est pas harmonisé au niveau européen et qui cause des différences au niveau des usages. Il n'y a pas que la question de la consommation, il y a la question de l'usage des œuvres.
Il y a un véritable problème, Séverine Dussollier, d'harmonisation au niveau européen. Pourtant, il y a eu une directive en 2001. Alors, vous allez me dire ça date, hein, ça fait déjà 14 ans, qui visait justement à cette harmonisation. Mais est-ce que la technologie a trop avancé pour permettre à cette directive d'être encore pertinente?
Mais si vous vous replongez en 2001, on n'avait pas Netflix, on avait à peine YouTube, on n'avait pas tous les services d'Apple n'étaient pas là, Google était débutant. Donc on est dans un tout autre monde 15 ans après. Et je pense, pour revenir sur ce que Benoît Peters disait, c'est pas le droit d'auteur qui est pointé comme le coupable. Et ça, je veux vraiment y insister, parce que la Commission européenne européenne ne met pas au pilori le droit d'auteur. Je pense que tout le monde s'accorde à dire que les règles sont devenues complexes, qu'il y a un véritable besoin d'harmonisation, à la fois pour les consommateurs, mais aussi pour les auteurs. Parce que dans le vide qu'on a depuis 2001, s'est engouffrée la piraterie, les services de téléchargement illégaux, parce qu'il n'y avait pas d'offre légale, il n'y avait pas de possibilité pour les consommateurs d'avoir accès à toute cette culture que leur promettait Internet. Autrement que par des services qui étaient à la limite de la légalité, ou voire carrément dans l'illégalité. Donc ce qui est pointé du doigt, ce n'est vraiment pas le droit d'auteur en tant que tel, et je pense que la Commission européenne a vraiment à cœur de protéger les auteurs, mais c'est vraiment la complexité des règles qui fait que pour le moment, des services qui veulent agir en toute légalité, proposer de la musique, proposer des BD sous forme numérique, proposer des films et rémunérer convenablement les auteurs sont parfois découragés vu l'ampleur de la négociation qui les attend. Et c'est la même chose pour revenir sur ce que Lionel disait. Lorsque des bibliothèques, des enseignants, des utilisateurs veulent faire des choses qui sont autorisées par le droit d'auteur, en dépit de l'harmonisation qui a eu soi-disant lieu en 2001, ils sont en fait bloqués. On ne peut pas, en tant que professeur, faire un cours en ligne en mettant des extraits d'œuvres protégés par le droit d'auteur pour illustrer le cours, parce qu'on ne sait pas si ce sera accepté en Espagne, si ce sera accepté en Belgique, si ce sera accepté en Allemagne, où pourraient se trouver tous les étudiants auxquels on destine le cours. Donc, malgré l'harmonisation, il y a une fragmentation des législations qui rend les choses, en fait, à la fois difficiles pour les auteurs, qui fragilise les auteurs, vraiment, et à la fois difficiles pour les utilisateurs qui veulent faire les choses en toute légalité. Et
alors voyons justement si cette fragilisation des auteurs, elle est vécue comme telle par Benoît Peters. Alors vous êtes un auteur, j'allais dire international, c'est-à-dire que vos œuvres elles sont traduites. Voilà, elles sont traduites dans différents pays. Est-ce que vous constatez vous une difficulté à devoir justement être soumis à différentes législations sur les droits d'auteur en fonction du pays où vos œuvres sont vendues? Est-ce que ça c'est un problème pour vous?
Je n'ai jamais perçu. Mais il est vrai que je suis avant tout un auteur de livres et que les livres sous forme papier, quand ils sont traduits, circulent extrêmement bien. Je suis, avec Françoise Keuten et pour mes propres travaux aussi, de plus en plus soucieux du contact direct avec les éditeurs locaux, avec les publics locaux, et tout cela se passe très très bien. Ce qui me frappe, moi, dans toute cette affaire, c'est que dans un premier temps, quand même, très clairement, Jean-Claude Juncker et la Commission ont agité l'idée que le droit d'auteur était l'un des responsables de ces difficultés de prospérité. Face au lever de bouclier qu'il y a eu
en tout cas, la
nomination
des droits d'auteur, ce qui était différent quand même, non ?
Mais quand même, quand on confie à la seule députée du parti pirate, dont on connaît les positions, le rapport, ça a été perçu comme une provocation. Il y a eu en France, mais aussi en Allemagne et dans d'autres pays, un certain nombre de protestations. Et je constate, et heureusement, je m'en félicite, un certain recul. Mais maintenant, ne faites pas de moi un conservateur en ces domaines-là. Je pense vraiment que le droit d'auteur a toujours été une invention, qu'il a besoin de se réinventer aussi, que des règles peuvent être remises en question. J'entends tout à fait certains des exemples de Lionel Morel, et je pense que sur ce genre de questions, on peut être d'accord. Mais il faut se souvenir d'une chose, c'est que on part de traditions très différentes, les traditions anglo-saxonnes du copyright, les traditions plutôt françaises, mais qui ont fait école dans d'autres pays, du droit d'auteur. Il ne faut pas que les harmonisations qui doivent se faire, qui se feront, se fassent en diminuant un certain nombre de protections dans un environnement qui se fragilise. Prenons le cas de l'exception pédagogique, par exemple. L'exception pédagogique, on est d'accord, c'est comme l'exception handicap. En soi, les auteurs sont d'accord.
Mais donc, si exception pédagogique, c'est pour dire on délègue, on donne ces droits, on permet voilà, à un cadre pédagogique, justement, d'utiliser une œuvre sans avoir à verser de...
Moi-même, quand je fais une conférence sur la bande dessinée, par exemple, je montre des images, les miennes et celles des autres. Je dois bien le faire. Donc, je suis le premier à être d'accord là-dessus. Mais si vous multipliez les exceptions, si vous le faites sans limite, vous allez vous rendre compte que pour un certain nombre d'œuvres, l'exception va couvrir 50 ou 60% du champ d'usage. Et là, eh bien, il faut se demander à ce moment-là comment l'auteur vivra et comment son éditeur vivra s'il n'y a plus suffisamment de protection.
Alors, il faut dire d'ailleurs que la multiplication des exceptions aux droits d'auteur, c'est justement la piste qui est explorée par la députée Julia Reda. C'est la bonne façon de faire, d'après vous, Lionel Morel ?
Oui, en fait, c'est vraiment le cœur du débat hein, au niveau européen. Beaucoup plus d'ailleurs que les questions de géoblocking, si vous voulez, dans le rapport de Julia Reda, il y a...
Géoblocking, hein, je rappelle, c'est la possibilité, enfin l'impossibilité possibilité de pouvoir utiliser un abonnement quand on passe d'un pays à un autre. Voilà.
C'est l'idée en fait qu'il faut rééquilibrer le système du droit d'auteur en revalorisant les exceptions et en les rendant obligatoires au niveau européen. Pour l'instant, il y a une vingtaine d'exceptions dans la directive, il n'y en a qu'une seule qui est obligatoire. Toutes les autres sont optionnelles, donc les États choisissent parmi ces options et c'est ce qui crée ces divergences de régime au niveau des lois nationales. Ce que propose Julia Arena, si vous voulez, c'est de moderniser et de rendre compatible avec l'environnement numérique les exceptions déjà existantes et d'en créer de nouvelles. Je vous donne des exceptions, on les connaît tous. Par exemple, la citation des œuvres, c'est une exception. Le fait de pouvoir faire des copies privées des œuvres chez soi pour faire des copies de sauvegarde, c'est une exception. L'exception pédagogique, vous en avez parlé. Il y a des exceptions dans les bibliothèques. Voilà, c'est tout un ensemble d'usages où, à un moment donné, on dit les auteurs n'ont pas à interdire ou à autoriser ces usages. Ces usages, ils deviendront possibles sans autorisation. Par contre, les exceptions peuvent être rémunérées. Hein. Vous avez dit l'exception pédagogique, par exemple, elle donne lieu à une rémunération en France qui est assez importante. C'est plusieurs millions d'euros par an. Il ne faut pas opposer les exceptions, si vous voulez, à la rémunération des auteurs.
Donc, c'est essentiel parce que sinon l'appauvrissement des créateurs qui est réel et la précarisation de créateurs qui n'ont pas un régime comme celui des intermittents, ils n'ont que leurs droits. Si on multiplie les exceptions, comprenez qu'on ait un petit peu l'impression de se faire vider les poches.
Pas forcément, parce qu'il y a des usages, si vous voulez, qui doivent rester complètement libres. Par exemple, la citation d'une œuvre ou la parodie, c'est des exceptions qui existent et qui sont gratuites.
Je suis entièrement d'accord avec vous.
Donc vous voyez bien qu'il y a des exceptions qui ne doivent pas donner lieu à des compensations.
Sauf que ce que vous dites, Lionel Morel, c'est qu'il ne faut pas que ce soit soumis à l'autorisation des auteurs.
C'est le principe d'une exception. Si vous voulez, ça crée en fait le droit d'auteur, c'est un équilibre entre une sphère contrôlée par l'auteur depuis toujours et une sphère d'usage qui doivent rester libres. Ça a toujours été comme ça depuis la Révolution. Et l'enjeu, c'est que ça le reste dans l'environnement numérique. Et on est très très loin de cette situation actuellement.
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée, Benoît Peters?
Je pense que techniquement, on pourrait être d'accord, mais simplement, ça doit être de la concertation, ça doit être vu au cas par cas. Imaginez qu'on dise le principe du droit d'auteur est intangible et sacré, mais que les exceptions peu à peu en grignotent 80% avec des compensations trop faibles, eh bien je pense qu'on arriverait à appauvrir une création dont la France notamment est vraiment un des moteurs en Europe. Pensons à ce qu'est le cinéma par exemple. Qu'est-ce qui resterait du cinéma européen s'il n'y avait pas eu la puissance de soutien de la France à travers le pouvoir public, à travers un certain nombre de choses qui ont permis à des cinéastes de tous les pays, des cinéastes africains, des cinéastes turcs, autrefois Tarkovsky qui venait de Russie, les cinéastes italiens, tous ceux-là ont pu développer leurs œuvres grâce à cela. Si on détricote ce système un peu imprudemment, sous couvert d'unification, de modernité, de numérique, parce que quelquefois on parle de numérique pour des choses qui n'ont rien à voir. L'exemple que vous citiez du Petit Prince et de 30 ans mort pour la France,
ça
n'a rien à voir avec le problème du numérique.
Mais
c'est vraiment un problème.
Ça permettrait de numériser les œuvres de Saint-Exupéry, les diffuser au niveau mondial.
Oui, mais la question de mort pour la France, franchement, elle n'est pas directement liée à cela. Donc c'est un point dont il faut discuter et pas se targuer de ce mot numérique qui est important dans certains secteurs et beaucoup moins dans d'autres. Par exemple, le monde du livre reste un monde où le papier est très très largement dominant, nous le savons.
Séverine Dussollier, est-ce que ce n'est pas une étrange manière de procéder que d'envisager une réforme du droit d'auteur en multipliant les exceptions? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt se dire, voilà, on harmonise le droit d'auteur, mais on donne des règles qui sont les mêmes pour tout le monde, plutôt que de multiplier ces exceptions?
Alors, je pense pas que le but soit de multiplier les exceptions. C'est vrai que c'est ce qui apparaît dans le rapport de Julia Reda, mais il faut faire attention. Ce rapport n'a pas été commandé par la Commission européenne. C'est le Parlement européen qui fait son travail de législation, de réflexion. La Commission européenne n'est pas du tout liée avec les conclusions qui seront adoptées ou non par rapport à ce rapport. Donc, cette position, et je pense que c'est en effet le signal qui a été envoyé aux auteurs, était de dire on donne ce rapport à une parlementaire du Parti Pirate. C'est aussi, je pense, personnellement, je crois que c'est un vrai piège pour le Parti Pirate qui lui a été tendu en lui donnant le dossier qu'il voulait, mais en lui disant... Enfin, le Parti Pirate est évidemment extrêmement minoritaire au sein du Parlement européen.
Et en même temps, ses conclusions étaient considérées comme plutôt modérées, par rapport peut-être à ce qu'on craignait ou à ce qu'on attendait.
Par rapport à ce qu'on craignait, je pense que ses conclusions étaient assez modérées, en effet. Et il y a des choses sur lesquelles je peux souscrire. La question des exceptions de la multiplication, elle va être au cœur des travaux dans lesquels est impliquée pour le moment la Commission européenne. Et l'idée, c'est en effet de savoir, est-ce qu'on multiplie les exceptions? Il y a déjà une liste très très impressionnante, avec des choses parfois un petit peu étranges. Ou est-ce qu'on fait en sorte de les rendre efficaces? Parce qu'elles ont été pensées donc, au début des années 2000, par rapport aux usages qui étaient faits à l'époque. Comment fait-on pour que les usages évoluant, on arrive aussi à avoir des exceptions qui restent raisonnables, qui restent limitées et qui ne viennent pas empiéter sur le marché normal pour les œuvres, et qui puissent en même temps être flexibles et évoluer et répondre à des nouveaux besoins qui serait tout à fait légitime. Et ça, c'est vraiment un exercice extrêmement périlleux, extrêmement difficile, avec la question de est-ce qu'on ne peut pas avoir une espèce d'exception ouverte, donc au lieu de multiplier les exceptions, d'avoir une exception où le juge pourrait juger si oui ou non l'usage est autorisé, et alors vraiment, dans les exceptions existantes, essayer d'avoir des conditions qui sont identiques. Parce que Benoît Peters parlait de l'exception pour les personnes handicapées, donc une exception qui existe en droit européen qui permet de, par exemple, prévoir des versions adaptées aux personnes aveugles de certaines œuvres, que ce soit en braille, mais aussi dans tous les nouveaux formats numériques qui permettent la lecture à haute voix. Est-ce que cette exception doit être vraiment régie pays par pays, au point que une œuvre pourra être adaptée pour les personnes aveugles en France, mais elle ne pourra pas circuler et être téléchargeable en Allemagne, alors que vous pourriez avoir des personnes qui voudraient lire dans la langue française cette œuvre en Allemagne. C'est un petit peu ridicule et c'est vraiment se couper des possibilités du numérique, tout en, à mon avis, ne portant pas préjudice aux auteurs, pas plus, parce que l'exception est reconnue dans deux pays plutôt que dans un. Donc c'est toutes ces questions-là qui vont être sur la table, qui vont être très très compliquées, mais on ne va pas forcément dans une multiplication des exceptions.
On voit quelques oiseaux encore, mais grosso modo, ça ne se fait plus. Tout ce chantier multicolore, au fond, ça salissait la rue.
Alors vous allez me dire, qu'est-ce que vient faire Francis Cabrel dans une émission consacrée à droit d'auteur? Lionel Morel, on vous entend quand vous parlez, parce que j'ai repris la parole, figurez-vous. Que vient faire un extrait du dernier album de Francis Cabrel, In Extremis, c'est le nom de l'album et de la chanson? Parce que, figurez-vous que Francis Cabrel a refusé que son album soit disponible sur les plateformes de streaming. Il considère que cette merveilleuse idée, eh bien, elle conduit à ce que les artistes soient complètement flous. Je préfère attendre que la dignité soit rendue aux créateurs. Pour l'instant, je trouve que cette solution déconsidère la chose créée. Alors, si on a choisi de vous faire écouter justement un extrait de Cabrel, c'est parce qu'il me semble qu'il pose quand même une question intéressante dans le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. C'est celle finalement du choix de qui on combat. Lionel Morel, est-ce que finalement, en voulant harmoniser le droit d'auteur, on vise pas d'abord les créateurs et on oublie peut-être qui sont les principaux responsables des blocages, à savoir les plateformes telles que, par exemple, iTunes, alors qui pendant longtemps a totalement verrouillé la diffusion des œuvres qu'on achetait sur cette plateforme. On pouvait pas, par exemple, les copier sur un CD. Et est-ce que c'est pas de ce côté-là qu'il faudrait d'abord porter le fer plutôt que du côté du droit d'auteur?
Alors nous on est tout à fait d'accord avec cette question. Le rôle des plateformes sur Internet est essentiel et pas forcément toujours positif, ni pour les auteurs, ni pour les utilisateurs. Nous on est très critiques par exemple par rapport à ce qui se passe sur YouTube, par rapport à un acteur comme Amazon, qui ont été effectivement les premiers à mettre en place ce qu'on appelle des DRM, des verrous numériques, et à construire leur position sur ces modalités. Donc c'est évident. Ces plateformes-là, elles ont des tas de désavantages aussi parce qu'elles exploitent notamment les données personnelles des utilisateurs, et ça c'est un sujet auquel on est très sensible. Donc effectivement, la Commission européenne n'a pas à agir que sur le droit d'auteur. Il y a des champs qui sont importants au niveau fiscal. Il y a la question de la protection des données personnelles. Il y a des questions de concurrence aussi que la Commission peut mettre en œuvre. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, si vous voulez, le droit d'auteur, c'est le plus mauvais moyen pour croire qu'on va pouvoir contrôler ces plateformes-là. C'est important, effectivement, qu'elles le respectent. Mais croire qu'on va pouvoir, si vous voulez, entièrement rééquilibrer l'environnement numérique sur la base du droit d'auteur, à mon avis, c'est un leurre. Mais bon, les titulaires de droit incitent la Commission européenne à agir aussi sur d'autres terrains. Là-dessus, on pourrait se retrouver.
Ah, Benoît Peters, vous parlez d'alliance objective entre le parti pirate, alors je ne sais pas s'il faudrait y inclure du coup la quadrature du net, et les multinationales de l'Internet.
Je crois qu'il y a une alliance, qui n'est pas une alliance concrète, entre des libertariens, des jeunes utilisateurs, etc., et les intérêts des majors du numérique aujourd'hui. Et que cela repose sur un leurre. Cela repose sur quelque chose de factice, qui est prendre au sérieux un certain discours de la gratuité quand une nouvelle grande société veut mettre en place quelque chose pour faire de la conquête de marché, mais que dès que le système se met en place, on le voit très bien avec Facebook aujourd'hui, où de plus en plus d'usages payants apparaissent, la gratuité ne tient pas. Ce sera le cas pour la plupart de ces grandes sociétés dont le but est le but affiché, et c'est, ça peut être tout à fait normal dans leur logique propre, le but est le profit. Et la gratuité est une illusion. Il y a toujours quelqu'un qui paye.
Ce mais qui la gratuité frappe, finit par servir ceux qui vont faire du profit dessus.
Mais bien sûr. Mais bien sûr, c'est une manière de grignoter dans l'espace de ce qui était sous droit et de changer de modèle. Au fond, par exemple, de quitter l'ancien rapport entre un producteur et un réalisateur de film, de quitter le modèle entre un éditeur et un auteur, en essayant de contourner tout cela pour un accès soi-disant direct. Par exemple, on va offrir à des auteurs qui voudraient s'auto-éditer, on va offrir sur telle ou telle grande chaîne commerciale de vente en ligne des droits beaucoup plus hauts, et dès que on aura fait sauter les anciens intermédiaires, vous verrez bien que ça changera. Alors, ce qui me semble très important à rappeler, c'est que si des choses doivent être repensées, actualisées, transformées pour le droit d'auteur, il faut le faire aussi avec les auteurs qui sont dispersés. Les sociétés d'auteurs, grosso modo, sont représentées par une personne et demie à Bruxelles. Les grandes sociétés ont des lobbies extraordinairement puissants et c'est elles qui font entendre leur voix. C'est elles qui viennent dire tout d'un coup.
C'est peut-être aux sociétés d'auteurs de s'organiser, justement.
Oui, mais vous savez, le poids économique n'a absolument rien à voir. Et les auteurs individuels, qui quelquefois ont des positions qui peuvent être aussi un petit peu différentes des sociétés qui les représentent, les auteurs ne sont pas entendus et tout d'un coup on les accuse, comme dans la citation que vous faisiez au début, de nuire d'une certaine façon à la prospérité, eux qui aimeraient bien simplement en ramasser un tout petit peu plus, oui, que des miettes.
Mais justement, je pense que ça c'est un aspect essentiel. Reprenons le cas de Deezer et de Francis Cabrel en fait. Où est le problème ? Là on n'est pas sur un Facebook hein, ou un Google ou un Amazon, hein. On est sur Deezer, société française qui paye ses impôts en France, etc. Pourquoi Francis Cabrel ne veut pas être sur Deezer, des plateformes de streaming ? Parce qu'en fait le problème il se tient...
Parce qu'il touche quasiment rien.
Et pourquoi il touche quasiment rien ? Parce qu'en fait, si vous voulez, il se joue essentiellement dans le rapport avec les producteurs et l'auteur. C'est-à-dire que la répartition de la valeur entre les auteurs et les structures qui gravitent autour d'eux, c'est-à-dire les éditeurs, les producteurs, est structurellement déséquilibrée à des points qu'on n'imagine même pas, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un très très gros problème. Et cette couche d'intermédiaires-là, elle a tout intérêt à durcir de plus en plus le système du droit d'auteur. Et c'est elle, en fait, si vous voulez, qui pousse à une surenchère, notamment tout ce discours d'attaque contre les exceptions. Il n'est pas venu directement des auteurs. Il a été médiatisé par des grosses sociétés de producteurs et des grosses sociétés d'éditeurs qui luttent maintenant contre toute forme d'équilibre du droit d'auteur. Et alors, si vous voulez, moi, je suis assez attristé de voir que les auteurs eux-mêmes embrayent dans ce discours-là. Et parce que je trouve que on pourrait se retrouver sur beaucoup de sujets, mais voir, en fait, ce discours maximaliste du copyright pur et dur, sans aucune exception, sans limite, repris dans la bouche d'auteurs, c'est assez difficile parce que ça va nous opposer et ça va opposer le public avec les auteurs. Alors qu'en fait, j'ai envie de dire, voilà, il y a des réformes à faire dans les contrats d'édition, il y a des réformes à faire dans les relations entre les créateurs et les producteurs. Et c'est là, à mon avis, qu'il y a une très très grande bataille. Alors il y a en ce moment une sorte d'union sacrée parce que tout le monde est dressé contre Julia Reda, mais à mon avis, les auteurs font une erreur parce que l'aspiration de la valeur, elle se fait surtout dans la relation qui les lie avec les intermédiaires économiques.
Il y a certainement plusieurs choses à faire et plusieurs terrains à aborder, mais méfions-nous tout de même de ne pas laisser les auteurs en tant que tels en dehors de ce débat, de faire d'eux des accusés virtuels. Je pense vraiment que les exceptions, nous les connaissons, nous les acceptons depuis longtemps. Mais par exemple, quand on voit les bouquets et les abonnements qu'on verrait, par exemple, un abonnement que vous prendriez pour de la BD, qui vous donnerait accès à tout n'importe comment et qu'on ramasserait mais véritablement des centimes, c'est pas simplement la question financière, c'est aussi, et je crois que Cabrel veut dire ça, c'est aussi la dévalorisation de l'œuvre en tant qu'unité. C'est l'œuvre réduite à l'état de poussière d'œuvre pour alimenter le flux.
Mais ça n'a rien à voir avec les exceptions.
Séverine Dussollier, vous, oui, qui êtes à Bruxelles, Benoît Peters nous parlait tout à l'heure d'une relation déséquilibrée entre ceux qui représentent les auteurs et ceux qui représentent ces multinationales. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, qu'effectivement le rapport de force en tant que présence et en tant que puissance peut-être auprès des décideurs politiques, il est très favorable à ces multinationales ?
La matière du droit d'auteur est une des matières qui suscite le plus de lobby à Bruxelles. Et en effet, les lobbies se sont multipliés. Il y a 20 ans, quand on parlait du droit d'auteur, on avait autour de la table les éditeurs, les producteurs, les auteurs. Les utilisateurs n'étaient pas concernés, on n'avait pas de plateforme, on n'avait pas les petites boutiques, les distributeurs évidemment n'intervenaient pas, ils vendaient des objets. Et puis avec Internet, tout s'est démultiplié. Donc on a maintenant autour de la table mais des lobbies à ne plus savoir qu'en faire. Donc c'est clair qu'il y a des lobbies dont la puissance économique est très très forte, et en face desquelles les auteurs ont du mal à faire entendre leur voix. Mais je pense qu'il y a un vrai, une vraie question que les deux autres intervenants ont posé, c'est la question en effet de la protection des auteurs dans les contrats qu'ils signent. C'est quelque chose sur lequel la Commission européenne n'a jamais voulu intervenir en disant c'est pas lié à l'harmonisation, il n'y a pas besoin, ce sont des rapports contractuels entre des personnes qui se passent dans un État. Or, les négociations qu'ont des auteurs avec leurs producteurs, avec leurs éditeurs, si auparavant ça leur permettait de s'assurer une rémunération plus ou moins correcte sur les ventes de leurs œuvres, à l'heure actuelle, c'est en effet une miette par rapport à ensuite la manière dont les producteurs sont eux-mêmes soumis à des négociations très dures avec des Amazon, avec des Apple, avec des Deezer, des Spotify, etc.
Exemple peut-être d'ailleurs, je vais vous laisser poursuivre, Céline Dussolier, mais exemple de ce que représente ces miettes. Alors il y a eu un cas, je ne sais pas si on peut parler de cas fameux dernièrement, mais enfin peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui en a entendu parler, mais c'est un des musiciens du groupe Portishead, qui est un groupe anglais, et qui a constaté que sur Spotify, qui est une de ses plateformes de streaming musical, les morceaux du groupe dont il fait partie avaient été écoutés l'an dernier 34 millions de fois, et il dit avoir touché l'équivalent de 2 370 €, ce qui équivaut à 0,007, c'est du James Bond, hein, centimes par morceau. Ça, c'est vraiment lié à la capacité de négociation entre producteurs et créateurs.
C'est lié à cela, c'est lié aussi à un modèle qui est émergent. Je pense que des Deezer et Spotify veulent vraiment rémunérer les auteurs, j'ai pas de doute là-dessus. On est dans quelque chose qui a été complètement reconfiguré, puisqu'on passe d'une logique d'achat à l'unité à une logique de flux, où on voudrait juste pouvoir allumer le bouton et avoir à disposition toute la musique, toutes les bandes dessinées, tous les films du monde. Il va falloir là-dedans aussi capturer la valeur et essayer de répartir cette valeur de manière tout à fait juste pour les auteurs. Et c'est vrai que les auteurs touchent trop peu pour le moment par rapport à ces nouveaux modèles. Il faut aussi que les contrats qu'ils ont avec leurs producteurs, leurs éditeurs, soient assez solides et soient surtout opposables à ces plateformes. On a entendu pendant l'été la fronde que les auteurs ont commencé à mener en France, en Allemagne, aux États-Unis contre Amazon, ça reflète le fait qu'en fait, ils sont complètement oubliés dans les politiques qu'impose Amazon sur la rémunération des livres ou la distribution des livres en ligne. Et il y a là vraiment quelque chose que j'espère que la Commission européenne va inclure dans son paquet d'harmonisation.
Alors cela dit, Benoît Peters, est-ce que la façon dont les droits d'auteur sont versés, notamment en France, est-ce que cette façon est si idéale que ça? Je voudrais vous soumettre une réflexion d'un Wikipédien, contributeur actif à Wikipédia, qui réfléchit beaucoup à ces questions. Il s'appelle Pierre-Carl Langlais. Je pense que Lionel Morel, vous le connaissez, et qui dit ceci. Le système français de reversement des droits d'auteur est profondément inégalitaire. Il explique que ça ne favorise qu'un tout petit nombre de créateurs, et qu'en 15 ans, Internet a peut-être plus fait pour réduire les inégalités structurelles de l'économie culturelle que certaines sociétés de droits d'auteur en 2 siècles.
Oui, là, je lui laisse la responsabilité de ce propos. Il faudrait en discuter très concrètement. Ce que je crois sur le numérique, qui me paraît très important, c'est que pendant longtemps, jusqu'à ces toutes dernières années, jusqu'à maintenant même, ça a été considéré comme de l'accessoire. C'est-à-dire qu'on pensait, le cinéaste pense à la diffusion de son film sur les supports traditionnels, les salles, le DVD, etc. L'écrivain, l'auteur de bande dessinée pense à la diffusion à partir du livre, aux traductions, etc. Et donc, on nous donnait des rémunérations absolument accessoires, absolument dérisoires pour les usages numériques. Si tout d'un coup, comme c'est le cas aux États-Unis notamment et dans beaucoup d'autres pays, si tout d'un coup les choses se renversent et que ces usages numériques représentent 30, 40, 50, 60, 70% de la consommation de l'œuvre, à ce moment-là, eh bien, c'est simplement la création qui va s'éteindre. Alors, on dira, oui, on a fait ces rémunérations accessoires parce qu'au fond, l'œuvre avait déjà eu son économie. D'une certaine façon, c'est quelque chose qui arrive après. Hein, ce sont les choses après la virgule. Mais là, tout d'un coup, c'est la question de la manière de créer et de produire les œuvres d'aujourd'hui et surtout de demain pour les jeunes créateurs. Ça, c'est véritablement fondamental. Et là, il y a à la fois des questions de législation, mais il y a en même temps, effectivement, un rapport de force neuf avec les éditeurs et les producteurs pour qu'on ne vienne pas nous dire, vous savez, pour l'instant, le numérique, c'est un modèle en développement, c'est très cher, nous-mêmes, on investit beaucoup. Il faudra bien qu'un jour, on se dise, c'est aussi l'avenir de la diffusion des œuvres. Et donc, eh bien, il faut bien qu'il y ait un partage de la valeur plus équilibré. Et là, je rejoins tout à fait Lionel Morel.
Mais attendez, Benoît Peters, la création ne dépend pas forcément d'une rémunération. Écoutez juste un extrait de ceci.
This song is called... I don't know, maybe it'll be called Give It Up, because that's like the chorus. Okay, so y'all ready?
J'explique ce qu'on est en train d'écouter. C'est un artiste israélien qui s'appelle Cutyman, qui a réalisé des collages à partir de vidéos, alors des vidéos d'anonymes qui piochent sur YouTube en particulier. Ce sont des gens qui jouent de la musique. Alors une petite fille qui joue du piano, une jeune femme qui part dans un rap, un musicien qui joue de la trompette, je crois, à un moment donné. Et il colle ça, en fait, il fait du sampling, mais du sampling vidéo. C'est quelque chose qui est totalement gratuit, il n'y a pas de droit d'auteur. C'est de la création. Est-ce que c'est vers ça, finalement, qu'il faut orienter aujourd'hui la création, Lionel Morel?
Merci déjà d'avoir passé Cutyman, parce que c'est vraiment un exemple des nouveaux créateurs qui font des choses extrêmement intéressantes sur Internet, dans la plus totale illégalité actuellement. C'est ça qu'il faut bien voir. Ce que vous venez de passer est illégal du point de vue du droit d'auteur, au moins en tout cas en Europe. En fait, pourquoi? Donc, en fait, ce qu'il fait, c'est ce qu'on appelle du mash-up ou du remix. Il va prendre des œuvres, des extraits d'œuvres qui existent déjà, et il les recombine pour en faire une nouvelle. Il faut savoir que chez nous, ça, c'est pas couvert par le droit d'auteur, parce que ça pourrait être considéré comme des sortes de citations, mais la citation ne s'applique que pour le texte, ça s'applique pas pour l'image, ça s'applique pas pour la musique. Et la seule chose qu'on peut faire dans le cadre du droit français, notamment un peu de ce genre, c'est des parodies ou des caricatures. Mais là, ce qu'on avait entendu, c'est pas une parodie ou une caricature. Il n'y a pas l'intention de se moquer. Cutyman, il veut créer, il veut rendre hommage d'ailleurs aussi aux gens auxquels il emprunte. Donc ça, si vous voulez, c'est illégal. Et pourtant, c'est une des parties, je dirais, les plus vivantes et peut-être les plus intéressantes qu'on trouve aujourd'hui sur Internet. Et ça, ça pose de vraies questions. Dans son rapport, Julia Reda, elle dit qu'il faut créer un droit de citation audiovisuelle. Elle prend en compte ce type de pratique. Et elle dit aussi qu'il faudrait que la parodie s'applique en dehors de l'intention de se moquer. Elle s'adresse à ça.
Et ces parodies-là... Une parodie sans ironie, il faudra m'expliquer ce que c'est.
Ça s'appelle un usage transformatif, en fait.
C'est plus une parodie, c'est autre chose.
À ce moment-là, on fait une exception pour les usages transformatifs.
Mais attention, alors on rajoute une exception. Alors, on pourrait faire aussi une exception aux exceptions.
Oui, mais alors à ce moment-là...
Qui serait de rémunérer les créateurs et de considérer que sans eux, il n'y a pas de remix, il n'y a pas de machin.
À ce moment-là, c'est bien que ce genre de création qu'on vient d'entendre reste illégale et que notamment les plus jeunes, qui en font beaucoup, vivent leur rapport à la culture dans l'illégalité.
Construire une œuvre, ça peut mettre du temps. Un Beckett, il a écrit pendant 50 ans, il a fini par publier un jour, il a eu le prix Nobel. S'il n'avait pas eu de droit à l'issue de ça, ça serait vraiment décourageant.
Bon, Séverine Dussollier, ça pourrait être peut-être être ça la conclusion de l'émission, c'est-à-dire il faut malgré tout, alors même si on va vers un droit d'auteur unique au niveau européen, maintenir un niveau d'illégalité, parce que peut-être que l'illégalité, ça aussi, ça permet aussi de stimuler la création, non?
Mais il y a toujours eu de la création où on allait emprunter à gauche, à droite, et ça doit être conservé et ça doit être amplifié, puisqu'avec le numérique, en effet, on va emprunter à gauche et à droite, et c'est important. Donc ce type de création, c'est un type de création qui peut-être à un moment, en effet, va rapporter de l'argent. Ça rapporte d'ailleurs de l'argent pas mal aux plateformes sur lesquelles c'est diffusé, hein, sans que ça revienne ni aux auteurs des morceaux qui ont été samplés, ni à l'auteur de la création. Et il y a là aussi une demande pour une régularisation ou pour une solution qui permette. Je crois que ce qui est vraiment important, c'est de réconcilier tout le monde avec le droit d'auteur. Les utilisateurs, les auteurs, les jeunes créateurs qui, eux, veulent créer peut-être autrement, qui ont un autre rapport au droit d'auteur. Et il est temps qu'on arrive à légitimer le droit d'auteur de nouveau, parce qu'il a perdu. La réaction de votre Wikipédien montre combien le droit d'auteur a perdu sa légitimité. Ce sont ces pourris de sociétés de gestion collective, ce sont les auteurs qui sont trop gourmands, qui sont toujours les responsables. Je pense que c'est pas ça la culture. La culture, c'est vraiment avoir une volonté de que les œuvres soient créées, soient diffusées et qu'on rémunère les créateurs qui le souhaitent.
Et bien peut-être qu'à travers cette émission, nous aurons contribué modestement à favoriser cette réconciliation. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir participé à l'émission. Benoît, Peter, Séverine Dussolier, Lionel Morel, les liens vers vos ouvrages, vers vos sites respectifs, c'est sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre, page depuis laquelle vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours, la télécharger pendant un an, l'exporter, la remixer, pourquoi pas si
vous voyez qu'il y en a des exceptions qui marchent. Hein.
Allez, on se retrouve lundi à 18h20. La question que nous poserons, l'école doit-elle former des élites? Ce sera un débat entre Alain Finkielkraut et Philippe Mérieux. Tout de suite, c'est le rendez-vous. Laurent Goumard, bonsoir.